La fusion des régions, le laboratoire d'Occitanie, c'est le thème et le titre du livre que je vous propose d'examiner ensemble avec celui qui en a dirigé la rédaction. Bonjour Emmanuel Négrier.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, directeur du CEPEL, c'est le Centre d'études politiques et sociales, ça se passe à Montpellier. Alors, à quelques mois des élections régionales, si elles ont lieu, hein, on va parler des régions ensemble ce matin, on va parler de leur fusion plus exactement, ceci donc grâce à votre livre. Il est édité aux presses universitaires de Grenoble. C'est un ouvrage collectif. Alors d'abord, j'aimerais vous demander, Emmanuel Négrier, ce qui a présidé à la rédaction de ce livre. En gros, le contexte et l'objectif du livre, quel était-il ?
D'un côté, on voulait en apprendre plus de ce phénomène de fusion dont on entend parler partout, dans les administrations, les inspections, dans les collectivités locales, les communes, et puis là, les régions. On s'est dit, tiens, voilà une occasion de regarder un petit peu ce qui se passe en constituant cette fusion de régions comme un petit laboratoire, si vous voulez, avec les meilleurs spécialistes de tous les secteurs concernés par une fusion de régions. Et puis, l'autre curiosité, c'était d'en savoir plus sur cette fameuse région française dont on disait à quel point elle était à la fois jeune, évanescente, mais en même temps symboliquement importante. Donc, quand on fusionne des régions, qu'est-ce qui se passe ?
Quand on fusionne les régions, qu'est-ce qui se passe ? Alors, surtout, restez bien au même endroit avec votre téléphone, parce que sinon, il se passe là, pour le coup, des différences de son.
Ah, d'accord.
Différences de son. Alors, on va rappeler peut-être, Emmanuel Négrier, que la région est une création relativement récente. Hein.
Oui, absolument. Si on compare la région à la commune, si on la compare au département qui a plus de deux siècles d'existence, la région, elle, ne date, pour ce qui est de son élection démocratique et au suffrage universel direct, que de 1986. Donc, c'est quand même très récent à l'échelle de l'histoire administrative et politique de la France. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ça n'est pas encore l'institution majeure dans les stratégies politiques. Quand il y accumule des mandats, bah c'est le mandat dont on se défait le premier,
et oui,
finalement. Et voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'agisse, contrairement à l'Italie, à l'Espagne, à l'Allemagne qui nous entourent, d'un niveau majeur en termes de puissance et d'action publique.
Et oui, on pense au Länder en Allemagne, ce n'est pas encore le cas chez nous. Quelles sont ses principales compétences à la région ?
Les compétences principales de la région sont, d'un côté, l'éducation et la formation. Ensuite, les transports et ce qui est devenu l'ensemble des mobilités, les transports collectifs, et puis un gros paquet constitué des schémas, des différents schémas, schémas de développement économique et durable, schémas d'aménagement du territoire, plans de prévention des risques, etc. Et puis la région, elle a aussi la possibilité d'intervenir là où elle n'a pas des compétences exclusives ou déterminées. Pense par exemple à la recherche, au tourisme, à la culture, bien évidemment, que nous étudions dans cet ouvrage.
Alors, dans cet ouvrage, dont je redonne le titre, hein, ça, il s'intitule « La fusion des régions, le laboratoire d'Occitanie », un livre qui se lit très facilement, hein, en dépit du sujet, avec une certaine forme d'humour dans cet ouvrage. Vous l'avez dit, Emmanuel Négrier, la région n'a pas forcément bonne presse, c'est celle dont se départissent les élus le plus facilement quand il y accumule des mandats. Vous le dites également, c'est avant tout un ensemble de départements, mais pour autant, hein, de l'avis de tous, écrivez-vous, elle s'acquitte plutôt bien de ses missions, sans pour autant avoir un style propre, hein, c'est ça, hein ?
Oui, tout à fait. Alors, c'était une des curiosités avec Vincent Simoulin quand on a commencé cette entreprise. L'image qu'on avait des régions, c'était, bon, d'un côté, des institutions qui avaient plutôt fait le job, comme on dit, c'est-à-dire en matière de construction de lycées, c'est très clair que la politique régionale partout s'est fortement développée par rapport à celle de l'État auparavant, quand l'État était seul en scène. Mais en même temps, une région qui n'a pas encore toutes les clés pour s'imposer, qui a une capacité fiscale très faible, au fond, quand la région a besoin de ressources, elle sait qu'elle peut jouer sur une ressource, facilement, c'est le prix de la carte grise. Alors vous imaginez quelle souplesse ça offre aux régions pour développer de grandes politiques. Donc finalement, on s'est dit, mais voilà, qu'est-ce que ça va donner si un nouvel élan est donné par la fusion ? Est-ce que ce nouvel élan en est véritablement un d'ailleurs ?
Et alors voilà, justement, retour en 2015, l'annonce de la fusion par François Hollande. Cette fusion, vous la qualifiez de couteau suisse de la réforme administrative. Alors cette fusion, elle a pris tout le monde de court. Ça n'était pas prévu. C'était selon vous un exercice de diversion. Hein. Le but à peine dissimulé était de faire des économies d'échelle, ça ne plaît ni en Languedoc-Roussillon, ni en Midi-Pyrénées. Pour quelles raisons ?
Ça fait penser un peu à la définition de l'amour par le psychanalyste Jacques Lacan. L'amour, disait-il, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à des gens qui n'en veulent pas. D'une certaine manière, la fusion procède de ce phénomène, parce que, en gros, l'intention gouvernementale c'était effectivement de faire diversion par rapport à une impopularité grandissante de l'exécutif. Et quoi de mieux pour faire diversion que d'occuper les formations politiques à un objet comme ça qui les fascine, forcément, c'est la fusion de collectivités territoriales avec toutes les perspectives de gain ou de perte du pouvoir. Et puis, effectivement, quand on regarde comment la carte s'est dessinée avec l'idée d'une fusion entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, eh bien, quand on regarde des deux côtés, on se dit, ben, voilà, les acteurs politiques de Midi-Pyrénées ne voulaient pas trop d'une fusion avec les mauvais garçons du Languedoc-Roussillon.
C'était le cas ?
Lesquels... Et c'était tout à fait le cas, oui, bien sûr. Alors, ça, c'est tout à fait intéressant, d'ailleurs, parenthèse. Une fusion comme celle-là, elle laissait penser, et je pense que c'était ce que l'exécutif avait en tête. Au fond, les régions font à peu près toutes la même chose. Elles sont sous la gouvernance des directions régionales de l'État. Donc ça va être très facile de fusionner.
C'est la chambre d'écho de l'État. On va les additionner et puis ça va faire des économies. C'est un peu ça ?
Exactement. Et en fait, grosse erreur. En fait, on a découvert dans cet ouvrage à quel point ces régions dont on disait qu'elles étaient toutes identiques étaient complètement différentes. Et alors là, on touche à un point qui nous a beaucoup intéressés. C'est que c'est aussi vrai pour le système politique que pour les politiques publiques, et c'est également vrai pour les régions, bien sûr, mais également pour les politiques de l'État. Donc ça a été beaucoup plus compliqué de fusionner tout ça, et en particulier pour le système politique, on avait d'un côté, si vous voulez, un système politique midi-pyrénéen autour de Martin Malvy et d'un système d'une hégémonie à gauche et assez radicale dans sa tradition. En fait, on avait plutôt une classe politique orientée vers le compromis. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de conflit, mais l'identification d'un homme politique, c'est celui qui fait un bon compromis. Mmh. En Languedoc-Roussillon, l'identification politique majeure, c'est le conflit, c'est la castagne. Mmh. On s'identifie parce qu'on a réussi à s'imposer à l'autre. Il n'est pas question de compromis. Et quand vous mélangez ces deux systèmes politiques pour en faire un, eh ben je vous dirais, un peu trivialement, bonjour.
Bonjour.
Hein, c'est pas du tout évident de faire ça. Donc ça s'est passé par des logiques graduelles de domination, disons, on va dire, progressive du modèle midi-pyrénéen sur le modèle global à l'échelle de l'Occitanie.
Et alors, on pourrait penser tout de même que réunir ces deux régions faisait du sens, au-delà du fait qu'elles sont à côté, elles correspondent à un territoire, l'Occitanie justement, qui avait ce nom et préexistait à la fusion des deux régions.
Oui, alors ça c'est le grand paradoxe. Alors, parce qu'on aurait pu imaginer en effet que voilà, on était sur un territoire connu, reconnu par l'histoire, par la culture, même si la culture occitane est une fausse, là aussi, une fausse bonne idée de fusion, d'abord parce que la culture occitane déborde très largement.
Bah oui, sur la Nouvelle-Aquitaine.
Absolument, elle va en Nouvelle-Aquitaine, mais elle va aussi en Auvergne-Rhône-Alpes en partie, et évidemment en Provence, à la Côte d'Azur. Premièrement, et deuxièmement, à l'intérieur même de l'Occitanie, les traditions d'action publique en matière de langue régionale et de culture régionale étaient assez différentes entre l'Est et l'Ouest. là aussi, il y avait, d'une certaine manière, deux politiques occitanistes. Mmh. Bon, ça c'est l'autre problème de se lier à une identité comme ça. Et puis finalement, l'identité régionale, si on réfléchit 5 minutes, dans une région à l'attractivité et au renouvellement démographique aussi fort, eh ben, l'identité tirée de racines d'un état, d'un être permanent qui serait occitan, là c'est une
vue de l'esprit, pure. Une illusion. Alors si on doit passer, Emmanuel Négrier, c'est passionnant de vous écouter, c'est passionnant de vous lire, hein. Je renvoie les auditeurs vers votre livre La fusion des régions, le laboratoire d'Occitanie. Si on devait faire le plus et le moins, est-ce que l'Occitanie est advenue, quelles sont les réussites et qu'est-ce qui empêchera toujours cette région d'être efficiente, efficace? Économie d'échelle, il n'y a pas eu, hein.
Alors, il n'y a pas eu économie d'échelle, et par rapport au discours, on va créer des grandes régions puissantes à l'échelle européenne, là aussi c'est un échec. En fait, on a créé des grandes régions sur le plan territorial, mais des régions complètement bridées sur le plan de l'action publique. Si on regarde avec la voisine catalane, la Catalogne espagnole, on a pratiquement une capacité d'action de la région catalane presque 10 fois plus importante que la capacité d'action en termes budgétaires de la région Occitanie, alors que l'Occitanie, en termes de territoire géographique, est beaucoup plus grande. Mmh. Donc ça, c'est le premier point. On n'a pas créé d'économie d'échelle, tout simplement parce qu'une fusion, ça coûte cher. Mmh. Pour de bonnes raisons, parfois. Parce qu'il a fallu harmoniser les régimes indemnitaires des agents régionaux. On les harmonise toujours par le haut, donc ça coûte forcément plus cher. Et puis, on n'a pas arrêté d'avoir des dépenses qui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu fusion, notamment toutes les dépenses de transport, les dépenses d'équipement de visioconférence. Enfin, ça a l'air de détails comme ça. Et quand on parle avec les agents, je leur tire mon chapeau, d'abord, parce que ça a été quand même proche du burn-out à plusieurs reprises pendant ces 6 années. Et d'une certaine manière, c'est un peu le mariage selon Guitry.
La carpe et le lapin.
La fusion des régions, c'est finalement essayer de résoudre ensemble des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. Là, effectivement, il y a eu de multiples soucis. Derrière ça, ce qu'on peut dire, c'est que la région sort plutôt grandie en termes de capacité symbolique, d'identification politique. Évidemment, sa présidente, Carole Delga, c'est particulièrement démené. J'aimerais bien savoir le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru pendant ces 6 ans. C'est hallucinant.
Très vaste région.
Absolument. Elle n'est pas la seule. Hein. D'ailleurs, évidemment, beaucoup d'agents ont cumulé des kilomètres tout à fait hallucinants pour essayer de faire région. Et alors, je dirais aujourd'hui qu'on en a encore à une phase de transition. Toutes les politiques n'ont pas été harmonisées en dépit des discours. Et je dirais de la part de la région, du conseil régional, mais c'est également vrai, et ça c'est beaucoup plus curieux pour un esprit jacobin, de la part de l'État. On a réalisé dans cette étude que l'État lui-même, qui prétendait avoir évidemment la même politique militaire dans toutes les régions, avait des politiques complètement différentes d'une région à l'autre. Que c'est pas si facile que ça pour l'État, aujourd'hui, de parler d'une seule voix dans l'ensemble de l'Occitanie.
Donc la fusion plutôt moins aisée que prévu. Un dernier mot, Emmanuel Négrier. Est-ce que l'une des régions a mieux tiré son épingle du jeu que l'autre ?
Oui, incontestablement et graduellement, au cours de ces 6 années, on a vu le pouvoir se déplacer vers Midi-Pyrénées, vers Toulouse. Hein. Ça n'est pas dire que c'est une victoire unilatérale. Et surtout, l'un des paradoxes qu'on a vu, c'est qu'effectivement, à la détresse des vaincus, ceux qui ont perdu la capitale régionale, etc., en gros, les Languedociens, s'est ajoutée une certaine forme d'amertume des vainqueurs. Parce que c'est évidemment cruel de perdre la capitale, de perdre la capitalité, de perdre la domination dans le jeu politique. Mais quand on hérite des positions dominantes et que ces politiques triomphent dans le compromis, c'est pas forcément non plus de gaieté de cœur qu'on voit arriver de nouveaux acteurs avec lesquels il faut
partager,
partager, etc., malgré tout. Donc finalement, frustration des vainqueurs et détresse des vaincus, sont les deux manèvres négatives de la fusion, à côté des aspects beaucoup plus positifs, ne serait-ce que un phénomène qui va peut-être vous sembler curieux, mais constatons que malgré toutes les difficultés de la fusion, il n'y a pas eu de burn-out. La région est restée relativement sur ses deux pieds à développer ses politiques et à tenter d'harmoniser ce qui s'est révélé beaucoup moins facile que prévu, ses politiques publiques.
Eh bien, merci beaucoup Emmanuel Négrier de nous avoir donné un très bel aperçu de cet ouvrage auquel je renvoie, La fusion des régions, le laboratoire d'Occitanie, un livre que vous avez dirigé. C'est aux éditions Presse universitaire de Grenoble. Merci à vous.
Merci.